Bonsoir tout le monde. Vous avez devant vous la photocopie de la page Tzadik Bet Amoud Aleph dans le traité de Sanhedrin, Perek Chelek. Et nous sommes dans les lignes larges. À la troisième ligne large, si vous comptez à partir de la gauche. Et la cinquième ligne large, si vous comptez à partir de la droite. La ligne commence par le mot « roux ». Ah, c'est pour vous, ça. N'est-ce pas ? Cinquième ligne qui commence par le mot « hu ». Et nous sommes au milieu de la ligne. Il est écrit « Ve'ama Rabbi El-Azhar ». Non, vous comptez à partir des lignes étroites. J'ai dit les lignes larges, je ne sais pas pourquoi je parle. Cinquième ligne large. Vous voyez qu'il y a des lignes étroites. Non, vous voyez qu'il y a des lignes étroites et des lignes larges. Alors vous comptez la cinquième ligne large. À partir de... À partir de la droite, là, à droite, vous comptez 3, 4, 5. Et là, c'est pas difficile. Hein, je vous donne des indications dans un français élémentaire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Ve'ama Rabbi El-Azhar. Voilà, il y a aussi pour. Ve'ama Rabbi El-Azhar. Tout celui qui donne son pain à celui qui n'a pas la sagesse, la connaissance, des souffrances viennent sur lui. Shenehemar, ainsi qu'il est dit, Lahmecha yassimu mazor tahtecha, entevuna bo. Ton pain amènera mazor, alors mazor c'est-à-dire les souffrances, sous toi, car tu l'as donné à celui qui n'avait pas d'entendement. Ven mazor et la yisurin, il n'y a pas de... Le mot mazor ne veut dire que les souffrances. Shenehemar, vayar Ephraim et Holio, Yehuda et mazoro. Ephraim a vu sa maladie, Yehuda son mazor. Donc mazor veut dire maladie. C'est-à-dire quoi ? Donc celui qui donne son pain à celui qui n'a pas d'entendement, amène sur lui des souffrances. Ah bon, pourquoi ? Bah, oui, mais attention, c'est que le pain, il sert à quoi ? Ah ben, à vivre. Vous allez faire vivre des gens qui sont dénués d'entendement, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire des bêtises, donc ils vont faire souffrir. Donc, indirectement, alimenter l'ignorance, c'est alimenter la souffrance. Voilà. Quoi ? Oui, il faut bien qu'ils vivent, mais qu'ils vivent une vraie vie. Ça veut dire que si on donne son pain à celui qui n'a pas de connaissance, il faut lui donner du pain et la connaissance. C'est ça que ça veut dire. Mais lui donner du pain sans la connaissance, ça va engendrer les malheurs de l'humanité. C'est ça que ça veut dire. Il y a encore des feuilles, là ? Il y en a plein, là. Je ne sais pas quoi en faire. Je peux en faire des avions, si vous voulez. D'accord. Bon.
Enseigner à pêcher plutôt que donner du poisson.
Enseigner à pêcher plutôt que donner du poisson, exactement. Voilà. Voilà. Que le gouvernement. Ah oui, bon, il y a tout un débat comme ça en économie. Est-ce que l'économie de soutien aux classes défavorisées, c'est bon pour les classes défavorisées ? Pas forcément. Ça peut parfois habituer à des comportements automatiques de dépendance, d'assistance et tout le reste. Bon, enfin, c'est ça qu'il dit là. Ve'amar Rabbi Elazar, kol adam shen bo de'a, les sauf golé. Celui qui n'a pas de la connaissance, finalement, part en exil. Shenehemar, lachen gala ami, mibeli da'at. C'est pourquoi mon peuple est parti en exil, parce qu'il n'avait pas de connaissance. Gala ami, mibeli da'at. De quel exil parle-t-on là, au fait ? Gala Ami Mubilidat, il s'agit de l'exil du peuple qui part finalement à Babylone. Qu'est-ce qu'ont fait les Juifs à Babylone ? Ils ont fait beaucoup de da'at. C'est-à-dire que le Talmud Babli, c'est le fruit de l'absence de da'at qu'il y avait en Eretz Israël, alors on l'a acquis en Koutz Laaretz. D'ailleurs, la ville où était placée la yeshiva des Babyloniens, c'était Nehar De'a. Nehar De'a, ça veut dire le fleuve de la connaissance. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont appris à connaître. C'est-à-dire, si on n'a pas la connaissance dans le lieu de la connaissance, Alors, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'obscurité pour découvrir la lumière. D'accord ? Il y a, par exemple, il y a un verset dans Echa. Il y a un verset dans Echa. Bamahashakim hoshivani kemete olam. Il m'a installé dans les ténèbres comme les morts éternels. La Guémara nous dit, c'est quoi l'obscurité éternelle? Il m'a mis dans l'obscurité, c'est le Talmud de Babylone. Alors, le Talmud de Babylone, il est dans les ténèbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, pour arriver à une acuité du regard, il faut s'habituer à l'ombre. C'est-à-dire, on voit mieux. C'est-à-dire, quelqu'un qui a pris l'habitude de vivre dans les ténèbres est plus sensible aux différences de lumière, n'est-ce pas? Je crois que je ne me trompe pas. Eh bien, c'est ça ce qui se passe. La galoute a engendré une accumulation énorme de sagesse. C'est-à-dire, à partir du moment où on n'avait pas la sagesse nécessaire en Eretz Israël, il a fallu partir dans des situations anormales. Dans les situations anormales, alors on acquiert des facultés qu'on n'a pas en situation normale. Et ça, c'est ce qu'on dit. Donc, les Sof Golé, finalement, on part en exil pour acquérir la connaissance. Il y a à ce propos lorsque Yaakov part en galoute, Yaakov Avinu, il a le rêve, n'est-ce pas? Quand il voit l'échelle qui va de la terre au ciel. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Vesamti et zaracha karafara aretz, je ferai que ta descendance soit comme la poussière de la terre. Ufaratta yama vakedma, et tu t'étendras au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. C'est-à-dire, il y a également une extension qui n'est pas forcément territoriale, géographique, c'est une extension qui se fait dans la galoute. Ufaratta. D'accord? Paratta, c'est la gématria de 770. C'est ça? Oui, bien sûr. Paratta, c'est 770. C'est-à-dire, c'est l'adresse du rabbi Lubavitch. C'est-à-dire, c'est pas pour rien. Il y a pensé, il disait que c'était pas pour rien. C'est-à-dire, cette idée de disséminer l'enseignement de la Torah dans le monde entier, à la manière justement de la poussière de la terre, c'est cette idée-là qu'on trouve. Alors évidemment, c'est pas une finalité, c'est un moyen, c'est pas une finalité. D'ailleurs, les chassidim de Lubavitch disaient que Paratta, c'est également les lettres de Tsarfat. Le Tsarfat, c'est pour ça que le rabbi, il a envoyé ses shlichim précisément en France, et c'est pour ça qu'il a grandi d'ailleurs en France. Aussi. Mais enfin bon, je sais pas pourquoi je vous parle du rabbi ce soir. Bon, enfin bon. Ve'amar Rabbi Elazar. Kol bait she'en divre Torah nishma'im bo balayla. Et si on parle de la Torah dans l'exil, alors l'exil c'est quoi? C'est la nuit. Alors par voie d'association, on va nous parler de la Torah qu'on étudie la nuit. Kol bait she'en divre Torah nishma'im bo balayla esh ochalto. Toute maison où les paroles de la Torah ne se font pas entendre pendant la nuit, le feu la dévore, cette maison. Shenehemar, car il est dit, Kol hosher tamun litzfunav, tochleu esh lonu pah, yera sarid de ohalo. Bon, alors, je vais traduire, c'est un verset un peu difficile à traduire. Toute obscurité est réservée à ses cachettes. Il sera dévoré par un feu qui n'a pas été entretenu, il manque un reste dans sa tente. Alors le reste de quoi il s'agit? Ve'en sarid et la talmid chacham. Quand on parle d'un reste, d'un résidu, il s'agit du talmid chacham, du sage, chez Nehemar, car il est dit, Uva seridim asher Hashem kore, ces restes que Dieu appelle. Donc il y a ici... Il faut donc étudier la Torah la nuit, dans les maisons. C'est quoi la nuit? La nuit, c'est le moment de l'absence. Ha'ader, dit le Maharal. À quoi sert l'absence dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il y a des moments d'absence? Pourquoi est-ce qu'il y a des moments d'obscurité? Vous savez pourquoi? Pour donner naissance à la lumière. Le principe, Vayi Erev, Vayi Boker. Il fut soir et il fut matin. C'est ce qu'on appelle un temps optimiste. C'est-à-dire on commence par l'absence pour arriver à la présence. On va du néant à l'être. Et donc, s'il y a une maison qui est plongée dans la nuit, c'est que dans cette nuit se prépare le jour. Comment préparer le jour dans l'absence? Il faut pour ça la Torah. C'est-à-dire la Torah, c'est la présence de la parole dans l'obscurité. Quelle obscurité? L'obscurité du monde. Et donc, s'il y a absence de Torah dans une maison la nuit, eh bien, c'est donc que cette nuit ne sert à rien. Donc, c'est une nuit destructive. Je ne sais pas si je suis assez clair. Il y a deux manières de concevoir la nuit, l'absence, le néant. Soit comme étant l'origine de l'être, soit comme étant la fin de l'être. Alors, quand on a une vision pessimiste, on dit, par exemple, tout ce qui existe, un jour, va disparaître. C'est-à-dire, on va du jour à la nuit. C'est le temps pessimiste. Le temps optimiste, celui de la Torah, c'est on va de la nuit au jour, du néant à l'être. Alors, si ce néant ne sert pas à étudier la Torah, donc à préparer un monde meilleur, à quoi sert cette maison? Donc, elle sera détruite. C'est clair, hein? Ouais. D'ailleurs, nous avons une preuve de tout cela. C'est que toutes les maisons, après un certain temps, sont détruites. C'est soit parce que la Torah n'y était pas étudiée, soit parce que bien que la Torah ait été étudiée, elles ont quand même été détruites. Ce sont deux possibilités. C'est comme l'histoire du rabbi qui dit « La maison de ce juif, oh c'est un juif qui transgresse le Shabbat, que sa maison soit détruite, qu'elle s'effondre. » Après on lui dit « Mais enfin rabbi, c'est quand même un bon juif, il a quand même fait des bonnes choses, il ne faut quand même pas un décret aussi terrible. » Il dit « Bon, que sa maison ne s'effondre pas. » Et le miracle a été que la maison ne s'est pas effondrée. Voilà. Et bon, ça c'est... Où est-ce qu'on en était? Oui. Mais enfin, vous avez compris? Comment? Quoi?
La maison s'effondre, ça peut prendre 100 ans, 200 ans?
Oui, bon, ça viendra un jour. Bon. Oui. Non, mais elle ne s'est pas effondrée tout de suite. Mais non, je vais revenir à cette idée. Donc, le Tanit Racham est appelé Sarid. Sarid, un reste, un résidu.
Pas
tous les sarides sont des Talmid Chacham, mais il y a des Talmid Chachamim qui sont sarides. Il y a par exemple un Rav à Mevaseret Ilyon qui s'appelle le Rav Yossi Sarid, qui est un des dirigeants du Kollel de Meretz. Meretz, oui, il s'appelle Meretz, son Kollel. D'accord? Donc ça existe un peu partout. Zele Omadze Asa Elohim, il y a les deux. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, non, mais pourquoi est-ce que le Talmid Chacham est appelé Sarid? C'est un reste. Un reste de quoi? De quelle lumière? Quelle première lumière? La Torah. Ah bon? C'est un peu facile, on peut dire que tout est un reste de la Torah. Dans tout, il y a une trace de la Torah originelle.
De la bonne lumière.
Simplement de la prophétie. C'est depuis. Ah, il fut un temps où il y avait des prophètes. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes. Il nous reste les Talmidei Chachamim. Je pense qu'il faut expliquer ça un peu. Je vais expliquer. Il y a eu un temps dans l'histoire où il y avait une évidence de la révélation. C'était le temps des prophètes. C'était le temps également des mythologies chez les nations.
Mais pourtant, les prophètes, on n'y croyait pas, puisqu'on en a tué et tout.
C'est absolument faux ce que vous dites.
Comment?
Oui.
On n'a pas tué un prophète.
Bien sûr qu'on a tué des prophètes, mais parce qu'on n'y croyait pas. On tuait les prophètes parce qu'ils étaient insupportables. C'est-à-dire qu'ils vous disaient la vérité en plein dans le visage. C'était insupportable. Imaginez quelqu'un qui vous dise tout le temps que en quoi vous n'êtes pas comme il faut. Vous le tuez, tout simplement. C'est-à-dire que quand les prophètes parlaient au peuple, ils ne leur disaient pas « Je vais vous révéler un secret que vous ne saviez pas. Je vais vous révéler que Dieu existe et qu'il a donné la Torah. » C'est pas ça que disaient les prophètes. Les prophètes disaient, vous êtes des traîtres. Vous avez trahi la tradition de vos pères. Vous avez trahi la parole de Dieu. Ça veut donc dire que le peuple était censé comprendre de quoi le prophète parlait. C'est-à-dire que pour le public qui écoutait le prophète, il savait très bien que le prophète avait raison. Et donc ils l'ont tué. Il y a une chanson comme ça, le poète a dit la vérité, il faut donc l'exécuter. Et une chanson comme ça. dans ma jeunesse. C'était il y a longtemps. Et donc, je veux revenir à cette histoire. Il fut un temps, donc, où il y avait une évidence de la révélation. Cette évidence de la révélation se traduisait dans deux modes. Il y avait les prophètes chez les Hébreux, il y avait la mythologie chez les nations. Et puis il y a un temps où la révélation a cessé. C'était le temps de l'exil. C'est-à-dire quand a été détruit le premier temple, alors la prophétie a commencé à entrer en décadence, il en est resté quelque chose au début du temps du deuxième temple, et puis c'était fini. C'était la fin des prophètes. C'était également le temps de la fin des mythologies chez les nations. Alors, comment réagir à cette fin? C'est-à-dire que ça a été ressenti comme un choc, comme une onde de choc, dans toutes les civilisations. Les goyims et les juifs ont ressenti que le monde s'était transformé. Alors, tout le problème de savoir, que faire? C'était comme quelqu'un qui se réveille d'un long sommeil. Alors, il y a eu deux options possibles. La première option, c'était celle des philosophes. Les philosophes ont dit, nos ancêtres étaient des enfants. Ils ont cru dans des bêtises. Il est temps de fonder maintenant la pensée humaine sur la lucidité, ce qu'on appelle le rationnel. D'accord? Ça, c'est l'option des philosophes. C'est-à-dire, puisque nos ancêtres ont eu une expérience que nous n'avons pas, c'est donc que nos ancêtres étaient des idiots. Nos ancêtres étaient des idiots. Et maintenant, nous sommes des philosophes intelligents. Voilà, ça c'était la première option. Et quel est l'instrument dont va se servir le philosophe? L'intelligence. L'intelligence, la science. Alors qu'auparavant, leurs ancêtres se servaient de l'intuition, de l'imagination, tout le reste. Qu'est-ce qu'ont fait les Hébreux, les Juifs? Une fois que la prophétie a cessé, eh bien ils se sont dit, nos ancêtres ont vécu quelque chose que nous ne vivons pas, nous allons nous servir de l'intelligence pour reconstituer de manière intellectuelle ce que nos ancêtres connaissaient de manière vécue, comme une expérience existentielle. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, il n'y a pas eu chez les Juifs la rupture de tradition, tandis que chez les Goyim, il y a eu une rupture de tradition. Et donc, à quoi servent les Talmidei Chachamim? Eh bien, les Talmidei Chachamim sont des restes, justement. Ce sont des résidus d'une révélation qui a cessé. Et donc, par définition, on peut dire, le monde après la prophétie, ben, c'est l'obscurité, c'est la nuit. Et donc, pour y voir un peu clair dans cette nuit, on a besoin des Talmidei Chachamim qui ont le souvenir de quelque chose qui a été vécu à un moment. D'accord? C'est ça que dit en fait Rabbi Elazar. C'est ça qu'une maison qui n'est pas, dans laquelle il n'y a pas de Torah pendant la nuit, est détruite. La maison, c'est le monde. Il n'y a pas de Torah pendant cette nuit, ce monde est détruit. Voilà. Vous comprenez de quoi je parle? C'est plus clair. Oui. Ve'amar, Rabbi Elazar. Et Rabbi Elazar disait. Donc il y a toute une suite de conséquences de cet enseignement. Kol she'eno mehane talmidei chachamim minechasav eno roe siman beracha leolam. Celui qui ne fait pas profiter les sages de ses biens ne voit pas de bénédiction à tout jamais. She'ne'emar, ainsi qu'il est dit, en sarid leochlo alken lo yachil tuvo. Il n'a pas de sarid, c'est-à-dire de reste, qui profiterait de sa nourriture. Donc il n'aura pas de bien. En sarid et la Talmidei Chachamim, il n'y a de sage que, il n'y a de reste que les Talmidei Chachamim, chez Nehemar, ou Vasiridim, Asher Hashem, Koré. Ve'amar Rabbi Elazar. Nous sommes ici, si vous avez remarqué, nous sommes dans une série d'enseignements qui ont tous quelque chose de commun, c'est Rabbi Elazar. D'accord? Mais il y a un enchaînement. C'est-à-dire que chaque enseignement en entraîne un autre. Ve'amar Rabbi Elazar. Kol she'eno meshayer pat al shulchano, eno roe siman beracha leolam. Celui qui ne laisse pas des miettes sur sa table ne voit pas de bénédiction à jamais. She'ne'emar en sarid leochlo, il ne laisse pas les restes de sa nourriture. Alken lo yachil tuvo, c'est pourquoi il ne profitera pas de son bien.
C'est pas de la superstition.
Alors c'est quoi? Il faut laisser des miettes sur la table. Ah bon? Si je laisse pas des miettes sur la table, ça veut dire quoi? Que j'ai tout mangé. Si j'ai tout mangé... De Baal Tashrit. Oui. Oui, alors si je laisse rien, ça veut dire que j'avais très faim, et donc j'ai dû manger jusqu'à la dernière miette. Donc d'abord, je n'ai pas de confiance. Ceux qui mangent tout, c'est qu'ils ont peur d'avoir faim. N'est-ce pas? Quoi? C'est un peu c'est la largesse de laisser sur la table. Ça veut dire, je suis ouvert à la continuité. C'est-à-dire, si je mange tout, alors on peut dire que d'une certaine manière, j'ai vécu dans un monde complètement fermé. J'ai tout pris. C'est un peu comme dans le poème de la PA, lorsque je fais la récolte de mon champ. La Torah dit qu'il faut laisser un coin du champ qu'on ne récolte pas. Et la Guémara dit, c'est parce que les Juifs laissent un morceau de leur champ qui n'est pas récolté, qu'ils méritent de ne pas être détruits dans l'histoire. C'est pour ça qu'on dit « Esech Allah b'chol agoyim »« J'exterminerai toutes les nations » ou « Vecha lo esech Allah »« Mais toi, je ne t'exterminerai pas. » Alors la Guémara dit « Pourquoi est-ce que nous ne serons pas exterminés ?» Parce qu'il est dit « Lotechale pe'at sadecha »« Tu ne finiras pas le coin de ton champ. » Quel est le rapport? Le Maharal de Prague explique « Celui qui s'accapare tout son champ, eh bien, il s'identifie avec le monde. » C'est-à-dire, on peut dire, d'une certaine manière, c'est un panthéiste. C'est-à-dire, lui et son monde sont un seul univers. Donc il n'est pas ouvert à un supplément. Si j'en laisse un peu de côté, ça veut dire que je ne suis pas totalement identifié avec le Olam Hazeh, et donc j'ai la place pour le Olam Haba, et donc j'ai une bracha et tout ça. Et bien c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, laisser un peu de pain sur sa table, ça veut dire qu'on n'est pas entièrement attaché au monde. Ce n'est pas la superstition. C'est comme par exemple, vous savez, de ne pas passer sous une échelle. Hein? Les goyims, ils ont des superstitions comme ça. On ne passe pas sous une échelle. Ça porte malheur. C'est que c'est écrit dans le Shulchan Aruch aussi. Mais pourquoi? Parce que c'est dangereux. Ça peut tomber. C'est pas du tout par superstition, c'est parce que c'est dangereux de passer sous une échelle. Ça peut nous tomber dessus, c'est tout. D'accord? Chez les Arabes, oui, c'est de l'impolitesse de finir son assiette. N'est-ce pas? Chez les Européens, la politesse, c'est de finir son assiette. Et chez les Arabes, c'est de laisser. N'est-ce pas? Et chez les Juifs? Ça dépend chez qui. D'accord? Bon. Oui? Entre quoi? Oui? Du pain? Ah oui, pourquoi?
Parce que, si vous voulez, a priori, la personne.
Oui. Les miettes, on peut les donner aux oiseaux après. Je veux dire, on peut en faire quelque chose. Mais le problème, c'est de savoir, est-ce que moi, je veux m'en emparer? C'est-à-dire, est-ce que je suis impérialiste, en fait? J'ai un impérialisme par rapport à mon pain. Je veux le manger entièrement. Non, on peut en laisser.
Moi, j'ai entendu dire une fois qu'un rabbin m'a dit il n'y a pas longtemps que si tu veux juger quelqu'un, oui, regarde le manger.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Donc, si tu laisses quelque chose à table, c'est que dans ta vie, tu vas laisser autre chose à quelqu'un d'autre.
Oui.
Tu manges, tu fais tout.
Tu es capable de faire. Ouais, c'est une prédisposition de l'esprit. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est un peu la même chose. D'ailleurs, dans la PA, s'il n'y a aucun pauvre qui vient le prendre, bon, finalement, on le prendra. D'accord? Mais il faut d'abord avoir ce mouvement-là. Je ne m'empare pas de tout.
C'est une idée de la tzedaka, en général. Hein?
Oui, déjà, c'est d'accord en général. Mais là, c'est par rapport à moi-même, surtout.
C'est vrai. Ça veut dire que ça ne m'appartient pas, en fait.
Non, ça m'appartient, mais je ne suis pas, disons, empressé de le prendre. Ouais, je laisse. Bon. Alors là, il y a une objection de la Guémara.
Il y a une suite logique quand c'est Mahamarim.
Mais bien sûr, monsieur, on est ce qu'on n'arrête pas. Ben, on voit très bien. L'histoire du pain, c'est parce qu'il n'a pas donné son pain au Talmid Chacham. Et le Talmid Chacham, on en a parlé parce que il faut pas donner son pain à un ignorant, etc. Et on avait vu l'importance de la sagesse. Et on avait vu. Oui, enfin, ça, il y a toute une suite, un enchaînement très clair. D'accord? Veha Amar Rabbi Elazar Kol Ameshayer Peditim Al Shulchano Kilu Vodar Vodazara. Il y a un autre enseignement de Rabbi Elazar qui dit exactement le contraire, que celui qui laisse des miettes sur sa table C'est comme s'il était idolâtre. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Ha'orim la gad shulchan vea memalim lamni mimsach. C'est-à-dire ceux qui présentent pour Gad. Gad est une divinité de l'Antiquité. Chez les Anglais aussi d'ailleurs. Et donc il prépare une table pour Gad. Vea memalim lamni mimsach. Mani, c'est également une divinité de l'Antiquité, et aujourd'hui aussi à Wall Street. Et disons qu'ils font des libations pour Mani. Ah, donc, c'est interdit. La kashia, ce n'est pas difficile. Ha de ika shlema ba'ade, ha de leka shlema ba'ade. Ça dépend si le pain est entier ou si le pain n'est pas entier. C'est-à-dire, plus précisément, ce que ça veut dire, amener un pain sur la table, c'est une forme d'idolâtrie. Parce que c'est comme si on rendait un culte. C'est-à-dire, prendre un pain et l'amener sur la table et ne pas s'en servir, c'est donc un acte gratuit. C'est donc un acte cultuel. Donc c'est une forme d'idolâtrie. Hein ? C'est pas la même chose, c'est pas du pain. Non, mais le kos d'Eliyahu HaNavi, finalement, c'est parce qu'on languit. On attend qu'ils viennent. On attend qu'ils viennent. D'accord. D'ailleurs, on ouvre la porte. Il y a un minhag comme ça, d'ouvrir la porte pour le cinquième vers. C'est-à-dire quand on... Il y en a qui versent le cinquième vers au moment du Hallel, et on ouvre la porte et on dit Baruch Haba. C'est ça ? Horreur, il vient. Oui. Non, mais il y a une raison à ça. Pourquoi on dit Baruch Haba ? Il y a quatre fois le mot Baruch au début de la Haggadah. Baruch Hamakom, Baruch Hu, Baruch Shenatan Torah Lamu Israël, Baruch Hu. Pourquoi c'est quatre fois Baruch? Keneged Arba Abanim, c'est ce que dit la Haggadah juste après. C'est-à-dire, les quatre Baruch, c'est les quatre fils. Mais comme on sait bien, il y a le cinquième qui manque. Alors il revient avec Eliyahu Navi, et on dit Baruch Abba, on dit ça au cinquième fils. C'est-à-dire, Eliyahu se ramène, j'ai trouvé ça dans la rue, c'est à vous. Voilà. Bon. Ve'amar Rabbi Elazar. Alors puisqu'on parle de Avodah Zara, alors on continue un enseignement de Rabbi Elazar concernant la Avodah Zara. Kol amachalif bediburo ki ilu oved avodah zara. Celui qui change ses paroles, ça veut dire quoi plus précisément? Le menteur. Celui qui ment, c'est comme s'il était idolâtre. Ketivacha, bon, il y a une logique à ça. L'idolâtrie étant un mensonge, quand on ment, donc c'est l'idolâtrie. Ketivacha, il est dit ici, ve'ayiti be'ainav kimta atea, je serai à ses yeux comme un trompeur. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Je serai à ses yeux comme un trompeur. Ben c'est Yaakov qui l'a dit à Rivka. Quand elle lui dit d'aller tromper son père, il lui dit, oui, mais il va me toucher et je serai à ses yeux comme un trompeur. Urti vatam, et il est dit là-bas, Hevel hemma, ma'aseta atuim, ce sont des vanités, des actes trompeurs. De qui parle-t-il là, le prophète Jérémie? Oui, des dieux étrangers, qui sont des vanités, qui sont des tromperies. Donc, le terme tromperie est employé aussi bien pour les idoles que pour le menteur. Donc, celui qui ment est un idolâtre. Bon, c'est un peu énorme ce qu'il dit là, parce que si c'est vrai, ça veut dire que Yaakov, c'est un idolâtre? Or, Yaakov, c'est le fondateur du peuple qui a lutté contre les idoles. Il a dit ça avant le prophète Jérémie. Mais comment est-ce que Jérémie se permet lui de dire ces choses-là? Comment? À ses yeux, c'est-à-dire je ne le suis pas vraiment. Je ne suis pas un vrai trompeur. D'ailleurs, la preuve, quand on voit le verset dans Jérémie, il y a une suite au verset. Elle n'est pas écrite, vous n'en faites pas. Mais vous vous en rappelez certainement par cœur. Que dit le prophète Jérémie? Hevel hema, ils sont vanités. Maase ta'atouim, œuvre de tromperie. Lo ka'elle helek Yaakov, ce n'est pas ainsi la part de Jacob. Ki yotzer hakolhu, car il est le créateur de tout. C'est-à-dire dans le prophète, dans le verset dans lequel le prophète nous parle des idoles comme de la tromperie, il tient à nous rappeler que ce n'est pas le cas de Yaakov, ou du dieu de Yaakov, helek Yaakov. Et pourquoi? Parce que le mensonge de Yaakov n'était pas un mensonge. C'est quoi un mensonge? c'est s'écarter de la vérité. Mais c'est quoi la vérité? Eh bien, la vraie vérité, c'est ce qui tient compte de tout. Or, le mensonge de Yaakov venait justement parce qu'il prenait en considération des éléments qui n'étaient pas évidents pour l'observateur, mais c'est des éléments importants. Le devenir de l'histoire, la fin de l'histoire. Or, il y a un grand principe du judaïsme qui est que la fin sanctifie, on dit, mais Kadesh est en hébreu, la fin sanctifie les moyens. C'est-à-dire, la fin, finalement, rétroactivement, explique le mensonge de Yaakov. Donc, le mensonge de Yaakov était une vérité. C'est un peu énorme, mais enfin, c'est vrai.
Alors, on peut aussi appliquer à ça l'histoire de Tamar.
Oui, bien sûr. Ça faisait du bruit, elle avait un drôle de teint, Tamar. Et donc, c'est le principe, vous savez, souvent on dit la fin ne justifie pas les moyens. On ne réfléchit pas vraiment à cette phrase-là. Ce n'est pas vrai que la fin ne justifie pas les moyens. Ça dépend quelle fin et quels moyens. N'est-ce pas? Ça dépend des cas. Il y a des cas où oui. On fait une avera pour une bonne raison. Par exemple, être là, saute la chaîne et faire autour à terre. Alors, il y a des cas où il vaut mieux, par exemple, je ne sais pas, il y a la fête de Pourim très bientôt, non? Il y a une histoire comme ça avec une reine, une juive, je crois, elle était juive. Elle a été envoyée chez un goy, je crois, n'est-ce pas? Et on fait la fête. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que la fin justifie les moyens. La fin qui était de... Hein? C'est vrai. C'est vrai et c'est pas vrai à la fois, parce que d'après ça, il y a tout un problème. Comment se fait-il qu'elle est partie là-bas? Alors, il y a différents commentaires. Certains commentateurs disent ce que tu as dit. Elle était à Noussa, c'était pas de sa faute, elle voulait pas, elle a été contrainte. D'autres commentateurs disent pas du tout. Ils disent que Mordechai était prophète. Il lui a dit, ma fille, je vois que c'est important que tu ailles chez ce goy, parce que quelque chose de grand va sortir pour le peuple. J'en ai la préscience. Voilà, donc il y a aussi des commentaires dans ce sens. Vatilakar Esther. C'est vrai. Vatilakar Esther. Mais est-ce que le Pshat dit qu'elle s'est opposée? Enfin, qu'elle était... Rien n'est clair dans la Megillah. Dans la Megillah, on ne voit pas vraiment. Il y a des tas de choses très, très surprenantes dans la Megillah. On ne sait pas.
Il y a eu aussi un miracle, parce qu'elle a eu l'air d'être jeune alors qu'elle était quand même d'un certain âge.
Si vous interprétez d'une certaine manière. Certains disent qu'il y a un miracle encore plus grand. Qu'en vérité, elle n'a jamais couché avec le roi, qu'elle était remplacée par un démon qui prenait sa forme. Et que pendant ce temps-là, elle passait la nuit chez Mordechai. Vous y croyez, vous, à ces choses-là? Moi, j'y crois. Mais ça veut dire quoi? J'y crois que ça veut dire que lorsqu'elle était chez le roi, ce n'était pas elle qui était chez le roi. C'était un démon qui était chez le roi. D'accord? Même si physiquement elle était là-bas. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la Megillat Esther. Il y a des choses incompréhensibles dans Megillat Esther. Par exemple, pourquoi est-ce que Mordechai ne s'est pas prosterné devant Aman? C'est pas clair. Pourquoi est-ce que Mordechai s'est pas prosterné devant Aman?
Surtout que c'était tous les juifs qui risquaient de payer.
En plus, oui, bien sûr. D'après la halakha, est-ce qu'on a le droit de se prosterner devant un homme ou pas? Oui?
On dit qu'il avait une idole.
On dit qu'il avait une idole. Ça, c'est Rabbi Avraham Ben Ezra.
Mais un homme, ça ne peut pas être une idole.
Ah, alors ça, c'est Rashi. Rashi dit que Haman se rendait un culte à lui-même. Il se divinisait. Alors, dans ce cas-là, on n'a pas le droit. Mais c'est pas écrit. C'est ça? Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont absentes.
Sans la fin de l'histoire, on aurait dû le tuer.
D'ailleurs, comment est-ce qu'on s'en est sorti? Lorsque Esther s'est prosternée devant le roi. C'est-à-dire, les problèmes sont venus de quelqu'un qui a refusé de se prosterner, et ça a été réglé parce qu'il y a quelqu'un qui s'est prosterné. Bon, je vous donne à réfléchir. Hein. Comment, oui?
C'est pour ça que Dieu n'apparaît pas, parce qu'il y a beaucoup de mystères.
C'est parce qu'il y a beaucoup... Oui, disons, le mystère, c'est parce que Dieu n'apparaît pas. D'accord? Il y a ça aussi. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur la Megillat Esther, c'est simplement parce qu'on est proche de Pourim, j'y ai pensé. Bon. Oui. Oui. Quoi, dans la Megillah? Parce qu'il apparaît partout. Oui, mais justement, c'est parce que son nom n'apparaît pas qu'il apparaît partout dans la Megillah. C'est la Megillah qui révèle, qui se révèle à travers le cachet. Megillat Esther, la révélation à travers le cachet. C'est ça, Anochi Aster Astir Panay. Le mot Anochi, c'est le mot de la révélation. Aster Astir, de l'obscurcissement. C'est-à-dire, c'est le clair-obscur. C'est un jeu d'obscurité et de lumière, la Megillah. Petite remarque, on va arrêter là-dessus parce qu'il faut continuer le texte. La Megillah, on la lit à quelle date? D'après la première Mishnah de Maseret Megillah. Il y a cinq dates possibles, n'est-ce pas? Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel, Yud Dalet, Tetvav. Et qu'est-ce que rajoute la Megillah? Lo Pachot, Velo Yoter. Alors vous prenez Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel, Yud Dalet et Tetvav. Vous faites l'addition, ça donne combien? Combien? 13 plus 5. Un
pitome. C'est une moyenne.
Non, 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15.
Ça fait 13 fois 5.
13 fois 5. Et ça donne combien?
65.
65. C'est une manière indirecte de faire l'addition. On peut aussi faire l'addition de manière plus simple. D'accord? 13 fois 5. En fait, très bien. Ça fait 65. C'est quoi ça? 65. Ben, c'est la gematria de Adonai, n'est-ce pas? Aleph Dalek Nunyud. Ça vous fait 65. Qui est le nom que l'on prononce, qui cache le nom qu'on ne prononce pas, n'est-ce pas? Le nom qu'on ne prononce pas, il a combien de valeurs?
26.
26. Or, on dit lo pachot et lo yoter, ni moins que 11, ni plus que 15. Moins que 11, c'est 10. Et plus que 15, 16. Et ça, c'est combien? C'est 26. C'est-à-dire que ce que fait la Megillah, elle nous parle du nom révélé et pas du nom caché. D'accord? Bon, il y aurait beaucoup de choses à développer là-dessus. Peut-être à Pourri, mais on en parlera. Tiens. Hein, voilà. Bon. Ou alors à l'approche de Pourri. Bon. Ve'ama Rabbi El-Azhar. Et Rabbi El-Azhar disait Kol Amistakel Ba'erva. Kashto ninaeret, sheneemar eria teor kashtecha. Tout celui qui sombre dans la nudité, c'est-à-dire qui s'occupe de pornographie, tout le reste, il perd sa virilité. Ainsi qu'il est dit, eria teor kashtecha, c'est-à-dire la nudité entraîne la perte de ta puissance. Ça veut dire que c'est ce qui est caché qui donne la puissance. Ce qui est extériorisé devient faiblesse. Ve'ama Rabbi El-Azhar, Léolam, et donc ça s'explique, on comprend tout de suite ce qui est juste après, Léolam et ve'kaval ve'kayam. Il faut toujours être discret pour subsister. Kaval, ça veut dire discret, ve'kayam, et tu subsistes. C'est ça. Ama Rabbi Zera, et Rabbi Zera disait, Afana Nametnena, c'est écrit en fait dans la Mishnah, Bait Afel, Enpotrin Lo Chalonot Lirot Nigro. Une maison qui est sombre, on n'y ouvre pas de fenêtre pour voir ses plaies. Chez Marmina, c'est ce que nous apprenons. C'est-à-dire, il y a la lèpre des maisons. Parfois, il y a la lèpre sur les murs. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On amène le Kohen. Le Kohen regarde, il dit si la maison est pure ou pas. Mais imaginez qu'il ne fasse pas assez clair dans la maison, il fait sombre. Le Kohen ne voit pas bien la couleur, donc il ne sait pas si c'est pur ou impur. Et la lumière doit être la lumière du jour, pas la lumière d'une lampe. Alors le Kohen peut-être dirait, ben dans ce cas-là, il faut agrandir les fenêtres pour qu'il y ait plus de jour, qu'on voit la plaie. La halakha, il dit non, on n'ouvre pas. Et donc la maison reste pure. Bien que, si on avait ouvert des fenêtres, peut-être que la maison aurait été déclarée impure. Mais on la laisse comme ça. C'est-à-dire que quand on est discret, on subsiste. C'est à chaque fois que quelqu'un est sujet à la violence de l'Ashgaha, c'est parce qu'il était dans un lieu, où, c'est parce qu'il a été mis en évidence. C'est tout le principe du Aïnara d'ailleurs. Oui, il y a une violence de l'Ashgaha. Il y a une nuance d'âge grave. Il y a des cas où Dieu intervient pour punir un tel. Quand est-ce qu'il intervient ? Quand il s'agit d'un personnage qui est dans une position de responsabilité très grande. Bon, un dirigeant politique, un dirigeant spirituel. Des personnages qui sont dans la croisée des chemins de l'histoire. Alors, eux sont plus sujets que d'autres à être jugés.
En ce monde.
En ce monde, ou même dans le monde à venir. Parce que l'action d'une personne responsable a plus de conséquences qu'une personne qui n'est pas responsable. Imaginez, par exemple, quelqu'un, qui dit un gros mot. Hein? Un gros mot. C'est pas bien de dire un gros mot. Mais où est-ce qu'il le dit, son gros mot ? Ça dépend. S'il le dit quand il est au Milouim, en train de nettoyer son fusil, bon, c'est pas très bien, c'est contraire à la halakha, mais enfin, c'est dans un cadre où, de toute manière, le langage n'est pas très châtié. Imaginez qu'il dit ça à la tribune de la Knesset. Alors, tout le monde en parle le lendemain, le gouvernement tombe, enfin, il y a des tas de choses qui changent. C'est-à-dire, la même parole, quand elle est prononcée dans un certain cadre, a plus de conséquences que dans un autre cadre. Hein ? On n'a jamais quoi ? Des gouvernements tombés à cause aussi. Il y a eu un premier ministre qui s'est fait assassiner à cause de gros mots. Ouais. C'est-à-dire, ce qui s'est passé par exemple avec Rabin, c'était le fruit d'une violence verbale de sa part. Évidemment, ça ne justifie pas l'assassinat, Chas v'Shalom, mais ça veut dire que, en politique, les paroles peuvent tuer. Et son gouvernement est tombé à cause de ça. Donc il y a ça aussi. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc la position, c'est l'ashgaha varie selon la position qu'occupe la personne dans le monde. C'est pas égal pour tout le monde. Par exemple, quand les feuilles tombent d'un arbre, les feuilles mortes qui tombent d'un arbre, elles ont une trajectoire, n'est-ce pas, les feuilles. Est-ce que c'est important quelle est la trajectoire ? Si ça tombe comme ça, ou si ça tombe comme ça. Ça a de l'importance ? Non. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de hashgacha là-bas. C'est ça ? Donc la hashgacha est fonction de la position qu'on a dans la pyramide du monde. C'est ça ? Bon. Et c'est ce que dit ici la Gemara. Si on est dans l'obscurité, bon, il y aura permanence. On va s'en sortir. Allez. Quoi ? Que les plantes.
Il y a un moment, je dis qu'il y a un arbre qui. La chanson
Que chaque chose a un malheur, toute herbe qui pousse a un malheur qui le fait pousser. Oui, le Rama m'explique c'est quoi le malheur en question. Eh bien, c'est la force naturelle qui le fait pousser. C'est la vie végétative. C'est ça le malheur. Ouais.
La nature comme étant le niveau zéro de l'Ashgaha.
Oui, c'est ça. C'est l'Ashgaha collective. Ouais. Ce que je dis là est tout à fait contraire à l'enseignement du Baal Shem Tov. Hein. J'espère que vous avez compris. Mais c'est l'enseignement du Rambam. Ça vaut quand même. Bon. Amar, Rabbi Tavi. Alors, voilà, on en a fini avec Rabbi Elazar. Hein. Voilà, tous les enseignements de Rabbi Elazar ont été épuisés. Maintenant, on revient à notre sujet, c'est la résurrection des morts. Ça revient tout le temps. Amar Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yoshia. Maï Tirtiv, que signifie ce verset ? Sheol, Sheol ve'otzer rechem, Eretz lo savera maim. Sheol, ça veut dire la tombe. Otzer rechem, ça veut dire la stérilité. Eretz lo savera maim. Une terre qui n'est pas rassasiée d'eau. C'est-à-dire, une terre sèche ressemble à la tombe et ressemble à la stérilité. Sheol ve'otzer rechem, eretz lo savra maim. Vechi ma inyan sheol etel rechem. Pourquoi parler de la tombe quand on parle de la matrice ? Et là, l'omar lecha, c'est pour te dire, ma rechem machnis ou motzi, af sheol machnis ou motzi. De même que la matrice, c'est un lieu où l'on introduit et on fait sortir, on introduit pour féconder et on ressort pour naître. De même, la terre, c'est un lieu où l'on introduit, qui ? Le cadavre, pour le faire ressortir lors de la résurrection. Vahalo devarim kalvahomer. Et c'est un raisonnement à fortiori. Uma rechem shemachnisimbo bahashai, motzim mimenu bekole kolot. Dans la matrice, on introduit dans le silence. Et quand on sort dans tous les cris. C'est-à-dire quand il y a fécondation, on n'entend rien. Mais quand l'enfant sort, il braille. N'est-ce pas ? Sheol, chez Machnissim, Bobokole, Kolot, la tombe, on y introduit le cadavre avec beaucoup de cris. Les endeuillés crient. Et Nodine, alors à plus forte raison, chez Motzin, Mimenu, Bekole, Kolot, qu'il y aura beaucoup de cris lorsqu'on fera sortir de la terre. Mikan teshuva la omrin en tehiyat ametim min haTorah. C'est une réponse à ceux qui disent qu'il n'y a pas de résurrection de mort selon la Torah. Ça veut dire que dans l'imagerie du Tanakh, la terre est considérée comme une mer. Bon, on peut dire que c'est un thème bateau, ça, de toutes les mythologies. Que la terre, il y a la mer nourricière, la terre. Et elle est fécondée, et elle donne naissance. Alors ça donne l'idée de la résurrection des morts. Il y a ça. N'est-ce pas ? Ça veut dire que si, dans le livre de Michelet, on a comparé la terre à la matrice, ça veut donc dire que, pour l'auteur de Michelet, la terre réagit comme les matrices. Or, dans la matrice, on introduit pour faire sortir, et bien il en est de même pour la terre. Donc ça veut donc dire que selon le livre de Michelet, il y a la résurrection des morts. Hein? Ça se tient. Ah, la Torah, ici, il s'agit du Tanakh. À moins que vous ayez quelque chose à dire là-dessus.
Non, j'essaie de comprendre
ce qu'on suppose... On suppose que l'auteur de Michelet est fidèle à la Torah. Donc, l'état d'esprit qu'il reflète, c'est celui de la Torah, donc il y a résurrection des morts selon la Torah. Ce qui se tient. Moi, je trouve que ça tient la route. Oui. Il y a quand même quelque chose à remarquer. C'est pas simplement que la matrice est considérée comme la terre, elle est considérée comme la tombe. Comme la tombe. Ça voudrait donc dire que lorsque l'on naît, on sort d'une tombe. La naissance, c'est sortir d'une tombe. Et effectivement, il y a dans la halakha des règles qui concernent une femme qui a accouché le jour de Kippour, ou juste un peu avant Kippour. Est-ce qu'elle a le droit de manger ou pas ? Que dit la halakha ? Non seulement elle a le droit, elle a le devoir. C'est-à-dire on lui donne à manger même si elle ne veut pas, quand on est dans les 3 jours, dans les 3 jours de la naissance. Et ça, c'est parce que l'ouverture, l'orifice est encore ouvert. Ça s'appelle dans la Mishnah « Kolzman shea kever patuach »« Tant que la tombe est ouverte ». Et c'est bizarre quand même cette histoire que quoi, le ventre de la mère, c'est une tombe. D'où est-ce qu'on est tombé dans cette tombe ? Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le livre de Bereshit, on parle là-bas du premier couple humain, l'homme et la femme. Ils étaient où, eux ? Gan Eden. C'est où ça, le Gan Eden ? C'est où ? Hein ? Pas du tout. Par exemple, quand quelqu'un meurt, on dit qu'il repose au jardin d'Éden. On ne parle pas de son corps, on parle de son âme. Alors, c'est où le jardin d'Éden ? C'est donc quelque chose de spirituel, ce n'est pas un lieu, c'est pas un lieu géographique, hein, le Gan Eden.
Il y a une discussion entre les trois femmes.
Pas du tout.
Non.
Il n'y a pas de description de trois fleuves, peut-être de quatre fleuves, si déjà. Et ces fleuves ne sont pas dans le Gan Eden. On dit « Umisham yiparet ve'aya l'arba arashim ». De là, ils se séparent pour devenir dans notre monde quatre fleuves. Mais dans le Gan Eden lui-même, ce n'est pas du tout corporel. Il est évident que Adam et Chava, et le serpent, et les arbres, et tout ça, ils n'ont pas de corps là-bas. N'est-ce pas ? À partir de quel moment est-ce que l'homme a eu un corps ? Dès qu'il a mangé un fruit spirituel, c'est possible, mais dans ce cas-là, à partir de quel... Où est-ce que la Torah nous dit qu'il a un corps ? Quel est le verset dans lequel la Torah nous dit, à partir de ce moment-là, il a eu un corps ? Oui ? Non, le fait qu'il ait senti nu, ça prouve qu'il n'avait pas de corps. Parce que le corps est une enveloppe. Vous voyez ce que je dis ? Le corps, c'est un vêtement. Ça, s'il s'est senti nu, ça veut dire qu'il n'avait pas de corps. Ben non, le corps est notre vêtement. Le corps est un vêtement. Donc s'il s'est senti nu, ça prouve bien qu'il n'avait pas de corps. Donc, à partir de quel moment est-ce qu'il a eu un corps ? Eh bien, c'est décrit en toutes lettres, au chapitre Guimel, au verset Kafalef. C'est à ce moment-là qu'il a eu un corps.
C'est ce qui est écrit.
Ah, ce qui est écrit. Ah, je pensais que tu le savais. Vayas Hashem Elohim le Adam ul Ishto, kutnot or vayal bishem. Et alors, l'Éternel Dieu fit pour l'homme et sa femme des tuniques de peau et les revêtit. C'est quoi la tunique de peau ? C'est le corps. C'est à partir de ce moment-là, la Neshama a quitté le Gan Eden et est entrée dans un corps. N'est-ce pas ? Maintenant, un petit enseignement de Rabbi Avraham Azoulay, dans le Chesed de l'Avraham. C'est un rapport ? Rabbi Avraham Azoulay, vous avez entendu parler ? C'était un des élèves du Hari. Comment ? C'est peut-être un ancêtre du petit Hebdo, effectivement. Enfin, il y a quand même 500 ans de différence. Rabbi Avraham Azoulay, dans son précédent de l'Avraham, explique la manière dont la Neshama arrive dans ce monde. La Neshama, elle se sent bien en haut. Qu'est-ce qui l'a fait descendre ? Eh bien, il dit, c'est très simple. La Neshama est tentée par le serpent. Elle mange de l'arbre de la connaissance et tombe dans une tunique de peau. Ça veut dire que le récit que fait la Torah de la chute du premier homme, c'est le récit qui est arrivé à chacun d'entre nous. Et dans quelle tunique de peau on est arrivé ? Eh bien, dans le fœtus. C'est ça ? Donc, à chaque fois que vous avez une naissance, dans le Hadar Yoldot, c'est quoi ? Eh bien, c'est une Neshama qui est chassée du Gan Eden et qui est envoyée dans la tombe.
Et ça se passe avant ?
Ça se passe dans le fœtus déjà. Elle est envoyée dans la tombe, oui. Comment ? Ça se passe juste avant la naissance. Ça se passe avant la naissance.
On avait un corps, puisque
Dieu quoi ?
A pris une côte de l'homme pour en faire la femme.
Ah, vous y croyez, vous ?
C'est parce qu'il...
Ah, vous n'êtes pas d'accord avec Rashi, alors, dans ce cas-là ? Vous refusez Rashi, comme ça ? Vous rejetez Rashi ? Rashi dit expressément que le mot « tzela » ne veut pas dire une côte, mais qu'il veut dire un côté. Il amène là-bas le verset « les tzela hamishkan ». C'est-à-dire qu'il y a deux aspects dans l'être humain, un aspect masculin et un aspect féminin. Ce sont deux côtés.
Pourquoi les hommes et les femmes ont des neshamas différentes ?
Ah bon, pourquoi ?
Est-ce que masculin et féminin ?
Non, de la même neshama. En fait, il s'agit d'un même être qui est formé de deux identités.
Et Dieu a fait avec de la poussière, je ne me trompe pas.
Avec de la poussière.
Comment Dieu a fait l'homme ?
Comment est-ce qu'il l'a fait ? Il l'a fait à son image. Non, il y a aussi un élément naturel qui s'est introduit. L'élément naturel, qu'on appelle poussière de la terre, effectivement.
Ça, c'est bien avant.
Non. Oh, bien sûr, c'est avant. Mais c'est un élément naturel, mais pas corporel. Pas du tout la même chose.
Quel élément naturel ?
Quoi ? L'élément naturel, c'est l'emprise de la nature, c'est-à-dire le déterminisme. Afar mina adama. Afar, ça veut dire aïn pa, c'est-à-dire source de fécondité, qui vient du silence, mina adama. Et bon, il y aurait beaucoup de choses à étudier. Ça, c'est le Maaseh Bereshit. On n'est pas en train d'étudier le Maaseh Bereshit. Bien que c'est un cours que je donne dans la section française du francophone du Machon Mir. Mais ça, c'est, on a déjà fini Bereshit, déjà. On est dans l'Ech Lecha. Et donc, il y a une chute du Gan Eden dans le corps. Et donc, on peut dire, c'est une certaine manière une mort. La naissance est une forme de mort.
C'est comme le jour de la mort.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, et vous savez qu'il y a un minhag très intéressant chez nos frères ashkénazes, qui est que lors de la naissance d'un garçon, le soir du premier Shabbat après sa naissance, on fait une petite fête qu'on appelle Shulem Zucher. Shulem Zucher vient de l'hébreu Shalom Zachar, qui veut dire bienvenue au mâle. N'est-ce pas? On lui souhaite la bienvenue. Et le minhag de nos frères ashkénazes, c'est de manger des aliments ronds, appelés arves. Arves, en Israël, on prend pour ça des pois chiches. Vous n'avez jamais fait ça, vous, le vendredi soir, comme ça? Un ashkénaze qui vient d'avoir un garçon, vous allez chez lui le vendredi soir, il vous donne des pois chiches à manger. Vous n'avez jamais vu ça? Il y en a plein dans le quartier. Hein. T'as pas d'amis ashkénaze? Ah, d'accord. Et donc, on mange les arves. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on mange des aliments ronds? C'est un aliment de deuil. C'est le repas qu'on fait pour consoler les endeuillés. Alors, ce qui explique les ashkénazim, c'est pour consoler la neshama d'être descendu dans ce monde. Hein? Comment? On dit ça aussi. Mais il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça pour les filles? Si déjà, il y a une neshama, elle vient, ben, peu importe s'il y a des masculines ou féminines. Ils comment ils savent pas quoi? Se garer? Non. Vous êtes méchant. Non, non, pas du tout. Pas du tout. La vraie raison est très différente. Elles sont restées en haut. Effectivement, quand vous regardez dans la Torah, il y a là-bas deux malédictions, l'un pour l'homme, l'autre pour la femme, il y en a une troisième aussi pour le serpent, n'est-ce pas? Et la malédiction de l'homme, c'est tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. C'est-à-dire tu vas devoir travailler. Et la malédiction pour la femme, c'est la douleur de l'enfantement. Et puis après, on nous raconte que l'homme a été chassé du Gan Eden. On dit qu'il a été renvoyé pour travailler la terre dont il avait été pris. Alors, j'ai rien compris. On devrait dire qu'il devrait être renvoyé pour travailler la terre et enfanter dans la douleur. La Torah ne le dit pas. Ça veut dire que l'homme a été renvoyé du Gan Eden et que la femme y est restée. Alors que font les femmes ici? Vous posez le problème? Eh bien, elles sont là parce que les hommes sont là. Mais elles y sont de manière indirecte. Ce n'est pas de leur faute. C'est de sa faute si elle est là. Donc, on peut dire, d'une certaine manière, l'identité féminine est restée édénique. Donc, elle n'a pas besoin d'être consolée. Voyez-vous? C'est ça le ridouche. D'ailleurs, c'est très joli parce que ça veut dire que le mariage, c'est donc une union entre le ciel et la terre. Ce qui fait un très beau Dvar Torah pour les Shéva Brachot. D'accord? Bon. Tout ça, c'était à cause de l'histoire là, de la tombe, de la résurrection des morts et tous ces machins-là. Oui. Tana Deve Eliyahu. Je lis ici deux lignes avant la fin. Tzadikim. Les justes que Dieu fera revivre. Et Nan Hosrin Leafaran ne reviennent pas à leur poussière. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Vaya Anishar Betzion Vanotar Birushalayim, ceux qui resteront à Tzion et qui resteront à Jérusalem, Kadosh Yamerlo, on dira d'eux qu'ils sont saints. Kol Akatuv Lechaim, Birushalayim, tout celui qui est écrit pour vivre est à Jérusalem. Ma Kadosh Leolam Kayam, Afhem Leolam Kayamim. De même que ce qui est saint existe éternellement, eux aussi vivront éternellement. Bon alors, ça veut dire quoi ça? Il y a ici une définition très importante de la sainteté. Vous savez que souvent on dit, c'est quoi Kadosh? Alors Kadosh, on dit ce qui est séparé, ce qui est éloigné, ce qui est éthéré. Mais d'après le texte de la Gemara ici, le mot Kadosh veut dire quelque chose de tout à fait différent. Le Kadosh, c'est celui dont la vie est puissante. Puissante absolument. ce qui est absolument vivant, c'est ça qu'on appelle le saint. N'est-ce pas ? Définition dégagée de ce texte par le Rav Tzvi Yehuda Kook. Il disait, là où il y a puissance de vie, c'est là qu'il y a sainteté. Alors évidemment, quand on est à un niveau de vie faible et qu'on rencontre une vie plus forte, alors la première chose que ça fait, ça affaiblit. Et c'est comme quand on rencontre une intensité énergétique très forte, alors on en est épuisé. Mais ce n'est pas parce que la sainteté est l'ennemi de la vie, c'est le contraire. C'est parce que dans la sainteté, il y a une puissance de vie très forte qu'il y a danger de rencontrer directement la puissance de vie. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ben voilà. Donc c'est la définition de la sainteté. Maintenant, il y a ici tout un débat, le problème de savoir effectivement c'est quoi la résurrection des morts. Est-ce que la résurrection des morts, c'est pour mourir après ? Ou est-ce que c'est pour vivre éternellement ? Il y a un problème. D'après Maïmonide, tout est clair. On meurt, un jour on revit, on remeurt. Donc tout s'arrange. Donc on vit finalement, en fin de compte, une vie sans corps. Mais pour les kabbalistes qui se basent par exemple sur ce texte que nous venons de lire, de Tana de Viliaou, c'est terrible. Ça veut dire qu'on va ressusciter et on va rester dans notre écorce corporelle pour l'éternité ? C'est embêtant ça. À moins de supposer, comme le Ramchal, qu'il y a une transformation de la vie corporelle, c'est-à-dire une sorte de spiritualisation de la matière, qui fait que les rapports entre l'âme et le corps vont se transformer, et donc la manière dont sera vécu le rapport entre le corps et l'âme est très différente de la manière dont c'est vécu chez nous actuellement. Donc on ne peut pas vraiment se faire une idée de ce que cela veut dire. Bon, mais ça c'est un sujet que nous n'avons fait que commencer à ouvrir, et nous en verrons donc la suite la prochaine fois. Shalom, Rabbi Hanania. Ben Arkashia Omer. Ratzah Kadosh Baruch Hu, les Akot d'Israël. Les Firar, Ribalem Torah, Mitzvot, Sheneemar.